Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis bien sûr toujours heureux de revenir parmi vous. Plus que des frères et sœurs, vous êtes aussi des amis. Et ça fait toujours plaisir de vous revoir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a peut-être sans doute qui ne me connaissent pas. Donc nous sommes, Nathalie et moi, nous avons été pendant 40 ans à l'église baptiste de Genève. Et nous sommes maintenant on pourrait dire détaché, à Nédan, donc près de Saint-Julien, dans le sud, au sud de Genève, pour une petite communauté qui est en train de démarrer et donnant un petit coup de main là-bas pour les aider et surtout aussi pour nous donner aussi du renouveau dans notre foi, parce que quand on est 40 ans dans la même église, on a peut-être aussi besoin de renouveau. Donc voilà, ça nous fait aussi un effet positif pour nous, pour Nathalie et moi. Donc, on a des liens, bien sûr, très ténus avec vous, avec les jeunes. On s'en est occupé pendant quelques temps avec Nordine. Donc voilà, on est content toujours de revenir vous voir. Alors, comme il y avait longtemps que je n'étais pas venu, j'avais le choix au niveau des prédications. Je pouvais en choisir. Il y en avait plein qui me faisaient penser à vous, que j'aurais voulu vous partager. Puis en fait, j'étais un peu, je dois vous dire, un peu rattrapé. Alors, par une actualité qui n'est pas aussi récente que celle qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même elle est assez récente, parce que la France traverse une crise sociale assez importante, et on a parlé de lumière à l'instant. Les lumières qu'on voit en ce moment ne sont pas les lumières douces du Seigneur, mais plutôt des voitures en flammes, etc. Mais il y a quelques mois de cela, on a traversé une crise déjà assez importante avec toutes les professions au sujet de la retraite, l'allongement du temps de la retraite. Et il y avait beaucoup de professions qui étaient en grève, en manifestation. Et puis il y en a une surtout qui a été marquante, c'est celle des éboueurs dans la capitale. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images qui étaient assez désolantes, parce que c'est la ville lumière qui tout d'un coup se transforme et qui est dévisagée pour devenir en quelques jours une ville poubelle. Une ville envahie par les déchets que nous laissons sur les trottoirs, et les témoignages des touristes et des habitants exprimaient un fort sentiment de désolation, de dégoût. Et nous ne pouvions alors que compatir en écoutant ces témoignages, car notre nature humaine nous pousse à être de grands consommateurs. Mais nous ne pouvons nous accommoder d'en percevoir les effets et les conséquences. Une des conséquences de notre consumérisme, c'est une production considérable de déchets. Cacher ces déchets que je ne saurais voir. Voilà une maxime qui pourrait être une réplique dans une pièce de théâtre de notre société moderne. Le déchet, le rebut, une notion qui n'a pas tellement notre faveur. Dans une société qui prône la production, l'abondance, la réussite, le déchet n'a pas bonne presse. Et c'est pourtant de cela que j'aimerais vous parler ce matin. Alors quand je dis qu'elle n'a pas bonne presse, le déchet n'a pas bonne presse, oui et non. Parce qu'en ce moment, il est de bon ton d'être dans cette dynamique de savoir ce qu'on va faire de nos déchets. De disserter sur le traitement des déchets, de leur revalorisation. Les hommes politiques font du greenwashing, vous savez, avant on connaissait le blanchiment de l'argent, maintenant c'est de l'éco-blanchiment. On fait semblant d'être écolo en proposant des solutions un petit peu pittoresques. Et la mode est à l'upcycling. Alors là, l'upcycling, c'est mieux que de dire au recyclage. Si je vous dis, j'ai acheté un sac, c'est du recyclage. Par contre, vous dire j'ai acheté un sac, c'est de l'upcycling. Et là, vous montez d'un grade. Hein, c'est plus bobo, vous voyez, c'est mieux. Donc en fait, on recycle des bâches, etc. On fait des sacs qu'on a payés très cher, mais c'est de l'upcycling. Donc voilà. Ça, c'est une forme aussi d'un peu de greenwashing. On transforme et on réutilise ce que l'on a rejeté. Alors il y a sans doute dans cette démarche un moyen surtout d'apaiser nos consciences. Parce que le mieux, tout simplement, pour éviter les déchets, ça serait de moins consommer. Moins on consomme, moins on fait de déchets, ça serait plus simple. Mais C'est pas le cas. Alors cependant, c'est un sujet qui peut s'avérer intéressant quand on la considère au travers de l'Évangile, cette notion de déchet. Il est une science. Alors, ça va marcher ? Je dois me diriger vers quelque part, non ? Voilà. Il est une science moderne que l'on nomme la rudologie. Alors c'est en 1972 qu'un scientifique américain a inventé cette nouvelle discipline, la rudologie. La rudologie qui vient du latin rudus, qui veut dire décombre. Et effectivement, cette discipline consiste à étudier les déchets. Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Voilà, je résume. En gros, mais c'est une science exacte. Attention, il y a des gens qui apprennent à étudier nos déchets. Alors, ils ont dû se régaler, hein, les experts en rudologie, là, avec la grève des éboueurs, il y a eu du boulot. Hein. Je pense que là, ils se sont éclatés. Mais je suis pas certain qu'ils aient eu vraiment le cœur à l'ouvrage. Je suis pas sûr que c'est le genre d'événement qu'ils attendent pour étudier notre façon de consommer. Mais bien au-delà de me soucier du sort de ces rudologues contemporains, moi, ce que j'aimerais ce matin vous partager, c'est quelques réflexions sur une rudologie théologique. En effet, la parole de Dieu nous dévoile le caractère de notre Père Céleste qui est loin de mépriser ce que nous avons l'habitude de rejeter, de considérer comme méprisable ou sans aucun intérêt. La Bible est truffée d'exemples riches en enseignements. Et nous tâcherons ce matin d'en tirer quelque chose pour notre vie de foi au travers d'une parabole. Alors je vous propose donc d'ouvrir votre Bible ou votre smartphone ce matin pour redécouvrir le message si original d'un Dieu à nul autre pareil. Nous lirons dans ce récit l'évangile de Matthieu 21. Alors j'ai la version qui s'affiche, ça sera plus simple. Pour qu'on ait un petit peu la même version. Donc c'est la Bible du Semeur, pour ceux qui... Avec les smartphones, c'est pratique, on peut choisir la version, mais si vous avez votre Bible papier, voilà. Alors, Matthieu 21, à partir du verset 33. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir, et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya des serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir la part de récolte qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs, l'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils, en se disant « Pour mon fils au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons ? Les disciples lui répondirent, « Il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. » Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice ? C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. » Et c'est un prodige à nos yeux. Je crois qu'on arrête la lecture ici. Ah oui, pardon. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. La pierre rejetée. La pierre rejetée. Cette parabole de Jésus est d'une dramaturgie et d'un cynisme incroyable. Mettons-nous Mettons-nous à la place de ce vigneron, ce propriétaire qui a tout mis en œuvre pour que son projet soit une réussite. Il a pris toutes les précautions pour mener à bien ce dont il rêvait, planter une vigne prospère. Verset 33, il plante sa vigne, l'entoure d'une haie, il creuse même un trou pour le pressoir et va même jusqu'à y construire une tour pour la surveiller. Il a tout calculé pour un projet béton. Et après cela, il peut partir en voyage le cœur léger. Il a confié son ouvrage à des vignerons en qui il a pleinement confiance. La suite de la parabole est tragique. Malgré sa persévérance, alors qu'il s'y prend à trois reprises, y envoyant jusqu'à son propre fils, rien n'arrêtera la folie meurtrière de ceux à qui il avait confié son bien. Et Jésus de rappeler la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. C'est le psaume 118 que Jésus reprend ici, au verset 22 et 23 du psaume 118. Alors oui, comme nous dit ce texte, ceux à qui était adressée cette parabole ont compris le message. Les spécialistes de la loi, les chefs religieux, les pharisiens, ces fameux bâtisseurs d'une religion qui dépasse largement l'intention première de Dieu, comprennent alors que Jésus essaie de leur faire passer un message et qu'il appuie là où ça fait mal. Ils ont bâti un système religieux qui n'est pas aux normes de Dieu. Un système religieux qui ne tient que sur une sagesse humaine, fondée sur le pouvoir, l'autorité des puissants, de ceux qui savent, aux dépens de ceux qui sont méprisés, les ignorants. Alors il est important de se rappeler que Jésus raconte cette parabole alors qu'il vient d'entrer dans Jérusalem. Et à ce moment de notre méditation, ce matin, il est bon de rappeler trois événements qui précèdent le récit de cette parabole qu'on vient de lire. C'est tout dans le chapitre 21. Au début du chapitre 21, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Il vient d'y entrer comme un roi. Non pas comme un roi ordinaire, mais comme un roi révolutionnaire. Il vient révolutionner les valeurs humaines. Il vient bousculer toutes les barrières érigées par les hommes et par la bien-pensance de ceux qui font la société. C'est ce que nous rappelle le dimanche des Rameaux, ce dimanche qui célèbre le début de ce chemin qui mènera Jésus vers la croix. Il vient bouleverser les codes par son entrée, sur une entrée royale pourtant, mais sur un ânon, plutôt que sur un cheval ou un chameau, qui était plutôt de la coutume à l'époque pour mettre en avant un roi et sa prestance. Le deuxième événement intéressant qui nous est rapporté et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est son intervention, l'intervention de Jésus dans le temple, une intervention fracassante. Dans la cour du temple, il y trouve des marchands cupides qui ne pensent qu'à s'enrichir sur le dos des fidèles en quête de spiritualité, faisant de ce lieu de prière un repère de brigands. Mais notre Jésus rudologue va-t-il se contenter de ce lamentable spectacle et de ne faire que renverser les tables des vendeurs de pigeons et des changeurs d'argent? Non, si vous lisez ce récit, si vous le relisez à la maison, notre Jésus rudologue va montrer le chemin de sa révolution. Il va accueillir ceux qui sont rejetés par la société, les aveugles, les paralysés, ceux qui n'ont pas accès à la plateforme supérieure réservée aux bien portants, aux juifs purs. Ils sont considérés comme impurs, rejetés, mis à l'écart, mis au rebut, humiliés. Et Jésus les accueille et les guérit. C'est au verset 14 du chapitre 21. Jésus les accueille et il les guérit. Cette guérison a du prix pour ces êtres blessés dans leur chair. Car par ce geste d'humanité, Jésus leur offre ainsi une normalité qu'ils avaient perdue. C'est alors qu'ils retrouvent leur place dans une société qui ne voulait plus d'eux. Puis le lendemain, c'est le récit déjà d'une parabole, celle des deux fils, mais je ne vais pas vous la lire en entier, je vous résume. C'est un vigneron, pareil, il a deux fils, il dit à l'aîné, tu peux t'occuper de la vigne demain? Ouf, non, je n'ai pas envie. Puis finalement, il a des remords, puis il y va. Puis au second, il dit, oui, je viendrai, mais lui, il ne vient pas. Et donc, la conclusion de cette parabole, c'est que, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il dit à ses deux fils qui ont mal agi. Les collecteurs d'impôts étaient impopulaires, ils le sont toujours, et les prostituées étaient méprisées. Jésus de démontrer à nouveau que ces gens de peu, ces classes de gens qui sont méprisés et rejetés, sont à présent cités en exemple à ceux qui pensent détenir la vérité. Trois événements, ainsi que la parabole du propriétaire de la vigne que nous avons lue tout à l'heure, forment à eux quatre un plaidoyer pour une rhétorologie théologique. Avec pour point d'orgue cette fameuse citation du psaume 118, « La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. » Alors j'ai volontairement mis une pierre de voûte parce que ça nous parle plus quand on est dans nos visites. On pense pas à dire, tiens, la pierre de l'angle, mais c'est la même signification aujourd'hui. Hein, vous voyez, quand vous faites vos vacances, et là on va partir en Grèce avec Nathalie, on va voir pas mal de pierres de ce genre qui tiennent, des pierres de voûte. Si vous avez, vous penserez à cette image, parce que la pierre angulaire, effectivement, était la même fonction, mais à l'angle de l'édifice. Alors, il serait restrictif et même dangereux, je dis bien dangereux, de ne réduire l'enseignement de cette parabole qu'au peuple juif. Parce que si vous regardez dans le titre de votre parabole, c'est sans doute que vous aurez. Hein, c'est une leçon que Jésus va donner au peuple juif. On le comprend. L'image qui est donnée, c'est Dieu a tout fait pour que ce peuple soit son témoin, mais ils comprennent pas. Alors, pourquoi je dis que ça serait dangereux de limiter à cette vision uniquement du peuple juif qui a refusé le Christ? En 2002, est sorti un film de Costa Gavras qui s'intitulait Amen, avec Kassovitz, Mathieu Kassovitz. Et moi, j'avais vu ce film, j'avais été bouleversé par ce film qui dénonce l'attentisme en fait de l'Église catholique et du Vatican surtout pendant le génocide du peuple juif. Donc les nazis, tout le film est là pour nous montrer les trains, etc. Et Mathieu Kassovitz, lui, joue un prêtre jésuite qui est scandalisé par ce qui se passe et il essaie de faire bouger les choses au niveau du Vatican. Il dit mais laissez pas faire ça, ils sont en train de massacrer les juifs et vous faites rien. Et il y a une réplique à un moment où le pape ou l'un des archevêques dit en fait, ils sont en train de venger le peuple qui a tué le Christ. Et ça, c'est une vision restrictive de se dire que le peuple juif ayant refusé la mission du Christ, qu'on peut les exterminer. Alors bien sûr, on ne peut pas trouver, même si l'Église catholique l'avait fait à ce moment-là, une certaine légitimité dans l'extermination d'un peuple qui a tué le Christ. Je trouve que c'est en cela que c'est dangereux de ne voir de cette parabole du propriétaire de la vigne simplement qu'une condamnation du refus des Juifs à accepter le Christ comme le Fils de Dieu, venu pour les sauver. Cet aveuglement qui ne veut pas reconnaître le Christ pour la mission de salut qui est la sienne est un aveuglement qui concerne l'humanité tout entière. Les regards de l'homme sont tournés vers la réussite et le pouvoir, la cupidité et le libre choix de vivre avec ou sans Dieu. Et en cela, le message de l'Évangile est une véritable révolution. Jésus vient bouleverser les codes, il vient les renverser pour dire au monde que la vérité n'est pas dans ce qui brille, ce qui impressionne ou dirige le monde. La vérité se cache dans ce qui est méprisé, rejeté par le plus grand nombre. Ce que les bâtisseurs du monde ont rejeté va devenir la pierre de l'angle de l'édifice qu'est l'Église, la communauté de toutes celles et ceux qui croient que le Fils de Dieu est le Sauveur du monde. Alors oui, cette parabole s'adresse bien sûr en priorité à ces docteurs de la loi qui se refusent à entendre le message du salut du Christ. Mais il s'adresse aussi à nous qui avons du mal à percevoir la pensée de Dieu dans une société qui ne veut pas de lui. Repensons à ce Dieu qui avait misé sur le peuple d'Israël pour être son peuple témoin sur terre. Ce peuple en qui il avait mis toute sa confiance pour gérer les biens qui lui étaient confiés. Comme le propriétaire de la vigne, notre Père Céleste aurait voulu se reposer sur ce peuple élu et vivre sereinement son septième jour, un septième jour éternel, comme un véritable repos. Mais il a tenté, au travers de l'histoire d'Israël, de leur envoyer des prophètes et des rois, mais rien n'y fit. Tout comme ce propriétaire, il a dû aller jusqu'à donner son propre fils, ce qu'il a de plus cher pour convaincre ceux qui sont aveuglés par des valeurs humaines, loin de la pensée de Dieu. Et c'est alors que la pierre rebutée, celle qui était rejetée par les hommes, est devenue celle de l'angle. Et c'est bien de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige, une merveille à nos yeux. C'est le miracle de Dieu qui va anéantir les valeurs de ce monde pour faire de ce qu'il rejette la source de notre salut. Une pierre rejetée, mais une vie restaurée. Car ce que le monde a mis au rebut va reprendre vie 3 jours après que les hommes aient les condamnés au tombeau. On a voulu l'enfermer, l'étouffer dans l'obscurité, mais il a recouvré la vie et il a révélé sa lumière. Une pierre rejetée, mais sur laquelle se repose une solide reconstruction de Dieu, qui est le seul bâtisseur. Une solide reconstruction. Alors, l'Église catholique a heureusement fait son mea culpa pour cette période si sombre du génocide du peuple juif. Et elle ne cesse de se remettre en question encore aujourd'hui dans bien d'autres domaines. Il en est de même pour le mouvement évangélique qui n'est de loin pas en reste. Nous avons aussi, dans notre histoire d'Église, et malheureusement, elle reste jalonnée de ses propres erreurs. L'Église, sitôt qu'elle s'éloigne du plan divin pour se perdre dans la libéralité ou le légalisme, s'éloigne de sa mission. Et le pape François, en octobre 2020, a écrit un très long texte intitulé « Fratelli tutti », tous frères. C'est une encyclique qui développe en profondeur le thème de la fraternité et de l'amitié sociale. Ce texte commence au chapitre 1 par ces paroles « Les ombres d'un monde fermé se répandent sur le monde, laissant sur le bord de la route des personnes blessées qui se trouvent exclues, rejetées. » Puis le pape François d'ajouter un peu plus loin, ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superflus qui sont objets de déchets, mais souvent les êtres humains eux-mêmes. Ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superflus qui sont objets de déchets, mais souvent les êtres humains eux-mêmes. Si je vous dis Lampedusa, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Lampedusa, une petite île italienne de 20 km carrés, une île située entre Malte et la Tunisie, une île touristique qui est devenue tristement célèbre pour autre chose que la beauté de ses paysages. Depuis 1999, plus de 200 000 migrants ont transité sur cette île. Et c'est un événement qui est survenu en octobre 2013 qui a malheureusement alerter la communauté internationale. En octobre 2013, 360 migrants ont trouvé la mort par noyade et le monde a découvert le naufrage de Lampedusa. On en dénombre environ 30 000 de décès depuis 1999 et c'est alors qu'une organisation catholique, la Casa dello Spirite e dell'Arti, c'est donc la maison de l'esprit et de l'art, qui a eu à cœur de mettre leur foi en pratique. Elle a demandé au ministère de l'Intérieur italien d'extraire une dizaine de barques échouées au fond des eaux, des barques qui transportaient des migrants, et de les mettre à disposition d'une prison de Milan, la prison Opéra de Milan, afin d'y confectionner les croix de Lampedusa, en souvenir de ce triste naufrage de 2013. Qu'est-ce que j'ai dit ? 2013. Oui, effectivement, trois barques ont été placées au cœur de la prison et des visites sont organisées pour que l'on puisse entendre les récits de migrants rescapés qui témoignent de ce qu'ils ont vécu pour échapper à leur pays en guerre et retrouver la liberté. Alors ce projet est déjà en soi très louable. Les détenus fabriquent des croix du Christ avec un bois qui est porteur d'une histoire et de chemin de vie brisé. Mais en 2022, et c'est ce qui a inspiré ce message ce matin, en 2022 est né un projet encore plus fou. Le projet Métamorphosie. Métamorphosie, toujours à l'initiative de cette organisation catholique, c'est un projet qui consiste à créer un petit orchestre à cordes avec ce bois de barques de migrants qui se sont échoués dans le fond des mers. Après avoir commencé l'expérience dans la plus grande prison de Milan, ce sont quatre prisons d'Italie qui participent à la fabrication de ces instruments à cordes pour créer une œuvre musicale et faire entendre la voix de ces migrants à travers le monde. Des instruments de musique nés de ces embarcations de fortune. Et en parlant de fortune, savez-vous combien peut coûter un Stradivarius ? Donc, il y a un violoniste là, mais bon, tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie le mot Stradivarius. Donc, c'est le violon par excellence. Alors, ce Stradivarius que vous voyez là, enfin, c'est pas celui-là exactement, c'est un Stradivarius. Si, je crois que j'ai pris la photo sur le site. Il date de 1714. Il a été vendu aux enchères au prix de 14 millions d'euros, 15,9 millions de dollars. Voilà. Sur le site internet du revendeur de violons de la prestigieuse marque italienne, voici ce que l'on peut lire. Sachez qu'il est bon d'afficher un violon très cher. Cela permet, en effet, de justifier d'une certaine élégance par rapport à vos camarades violonistes. Voyez-vous. Hein, acheter un violon très cher pour épater la galerie, en fait. Hein. Notre société aime ceux qui brillent. Notre société aime ceux qui réussissent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi dans une entreprise. Alors moi, c'est une entreprise sociale. Hein, je suis dans le social, mais malgré tout, on a un site internet. On a des, donc voilà, on a des agents de communication qui doivent poster sur LinkedIn. Il faut faire des posts. Chaque fois, on vient me dire, Jean-Claude, t'as pas quelque chose qui a bien marché ce mois-ci pour LinkedIn. Il y en a jamais un qui veut me dire, t'as pas foiré un truc, là, que je puisse mettre ça sur LinkedIn. Dire, voilà, avec tes gars, vous avez fait vraiment une boulette. Alors, la direction, toutes les directions, maintenant, investissent dans les réseaux sociaux, la communication. On doit communiquer que l'on réussit. Les chiffres doivent démontrer les réussites de l'entreprise. Et puis, quand l'agence de com aura publié un poste de l'entreprise, il faudra aussi liker. Alors, les collègues, oui, t'as pas liké. Ah non, j'ai pas liké. Mince. Parce qu'il faut qu'on soit plus de... En fait, on crée des followers, des disciples, en fait. Des disciples de la réussite, des suiveurs. On suit. Voilà. Des disciples de la réussite. Mais quant à Jésus, lui nous propose tout autre chose. Il nous propose une vie non pas basée sur la réussite, mais sur la grâce de son pardon et de son salut. Alors oui, ce projet Métamorphosie est le parfait exemple d'une rudologie théologique. Une rudologie à l'exemple de Jésus-Christ, un magnifique témoignage manifesté au monde. Et je dois vous avouer que j'ai toujours été admiratif devant la devanture d'un luthier. J'ai toujours trouvé que la fabrique d'instruments de musique était d'une grande noblesse. Nous pouvons légitimement nous enchanter du son parfait d'un Stradivarius hors de prix. Mais comment ne pas être émerveillé, interpellé par ce violon fabriqué par des prisonniers de Naples ? Un violon qui est né de ce que la mer avait enfoui et les hommes oubliés. Une embarcation tellement chargée de symboles. Ce qui était perdu revient à une nouvelle vie et va porter au monde la voix des rejetés, la voix de ceux qui ont péri alors qu'ils cherchaient une voie de salut. Je ne sais pas s'il y a des grands lecteurs parmi vous, mais si vous avez l'occasion de lire un livre que vous trouvez chez Folio maintenant en poche, il n'est pas très vieux, « Âme brisée » du japonais Akiro Mizubayashaki. Et je peux donner les références à ceux qui veulent. Âme brisée raconte l'histoire d'un luthier qui va redonner vie, justement, à un violon. Il va y passer des années. Et c'est dans ce Âme brisée, justement, c'est dans ce livre que vous apercevez que le violon a une âme. Le violon a une âme. C'est une petite pièce qui est à l'intérieur et qui tient, qui est embutée entre les deux parois du violon. Un violon a une âme. Et quelle image parfaite pour ce qui a été fait avec ce projet de métamorphosie, de redonner cette âme à ces violons. Alors que nous, je pense que c'est au-delà de cet exemple-là, de ces violons, il y a pour moi aussi une image de ce que nous sommes. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Et de ce qui était perdu, il a bâti son Église. Alors que nous étions des naufragés de la vie, il a fait de nous des bâtisseurs d'amour. Un peuple dont il est la pierre maîtresse, la clé de voûte, et qui soutient l'édifice par sa grâce, pour en faire une solide construction, un peuple qui portera le son de sa voix jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour conclure, justement, comme je vous le disais, quand j'ai dû choisir mon message de ce matin, je me suis rappelé qu'il n'y a pas très longtemps, hein, c'était au mois de juin, là, il y a 15 jours, on a vécu encore ce fameux drame. Là, c'est au large de la Grèce, c'est pas à Lampedusa, mais vous vous souvenez de cet événement qui est assez récent. Et le journal Le 1, je ne sais pas si vous connaissez le journal Le 1, qui est un hebdomadaire, titrait « Migrants, nous ne sommes plus humains ».« Migrants, nous ne sommes plus humains ». Et beaucoup d'intellectuels se sont mobilisés pour écrire des articles sur une vraie réflexion au sujet de notre approche de ce problème de la migration et de l'accueil des migrants. Quand on pense qu'il y a les moyens qui ont été déployés pour aller chercher des scientifiques qui font du tourisme scientifique, des milliardaires qui font un tourisme scientifique pour aller voir s'il reste encore quelque chose du Titanic. On a déployé des moyens colossaux pour aller les chercher. Rien de tout cela n'est fait pour ces migrants qui sont perdus. Alors j'aimerais conclure avec un texte que j'ai choisi dans l'épître de Paul à Tite. Donc c'est dans la version français courant. Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée à tous les hommes et se manifeste encore aujourd'hui pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais l'homme fait son tri sélectif. Tout comme ce capitaine égyptien qui a décidé de quitter le bateau, laissant derrière lui 750 migrants à la dérive. L'homme fait le choix de ce qui brille, de ce qui répond à son avidité de l'argent, plutôt que de choisir la douce lumière du Christ. Et dans son incroyable grâce, le Seigneur est venu pour nous sortir de l'eau, pour nous donner une vie nouvelle, fondée sur ce qu'il est, un socle solide pour notre vie. À l'instar de ces violons de Lampedusa, nous avons été transformés, reconstruits pour porter le son de sa voix au monde. Et à l'image de ce projet musical, en apprenti rudologue que nous sommes, porter la voix des plus faibles et que le monde a rejeté. Alors que notre foi soit nourrie de la pensée du Christ, une pensée révolutionnaire qui ne repose ni sur le libéralisme de notre société, ni sur le légalisme des systèmes religieux, mais sur la grâce de notre Sauveur. Lui qui nous a repêchés et transformés pour nous mener, pour que nous puissions mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Et pour conclure, je vous propose de chanter le cantique 591 dans les Gemmes, parce que ce cantique, je trouve qu'il fait écho à ce que nous venons de dire. Les paroles font écho à cette méditation ce matin, et notre Père Céleste nous a envoyé son Fils pour nous libérer de tous nos esclavages. Il est venu pour libérer les chaînes sociétales et religieuses, pour faire de nous, et par sa grâce, des messagers de joie. Alors puissions-nous proclamer sa grâce au creux de la nuit, dans laquelle sont ceux qui n'ont pas encore été touchés par sa lumière. Et nous avons chanté tout à l'heure, en début de culte, « Ensemble, nous ferons briller la lumière du Christ, donnant au monde la saveur de l'infini. » Quel programme ! Nous ne le ferons pas sans lui, en tout cas, avec le Christ. Merci encore aux musiciens pour aussi la qualité de vos chants tout à l'heure qui nous ont vraiment portés. Merci beaucoup.